Bien le bonjour chez vous, auditrices et auditeurs de Radio de la Paix. Soyez les bienvenus à votre lucarne dans laquelle nous faisons un retour sur les faits marquants dans les belles régions ivoiriennes. Aujourd'hui, ce sont le Tonkwi et le Sud Komoué qui sont à l'honneur. Pour l'une, nous irons dans l'univers de la friperie qui constitue une vraie réponse à la problématique de l'emploi et pour l'autre, nous reviendrons sur cette grande attraction culturelle qu'est la Bissa. Ça nous intéresse et nous en parlons dans Panorama des Régions.
Panorama des Régions. Panorama des Régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Merci de nous prendre en marche pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Vous faites bien, nous commençons à peine. Partons dans l'univers de la friperie où tout le monde, commerçant comme client, semble y trouver leur compte. Stéphane Adams était au marché de Mans et ses alentours à la rencontre des acteurs de la friperie. Voici son dossier d'actualité.
Radio de la Paix. Nous sommes à quelques encablures du grand marché de Mans. Sous la chaleur accablante de ce marché, les commerçants des friperies déploient leurs marchandises. Des pantalons jeans, des jupes, des t-shirts, des robes. Ici, on trouve de tout pour tous les goûts. Ce vendeur, Bamba Moussa, nous raconte sa journée de travail.
Nous, on casse beaucoup et puis les gens viennent pour nous parler, revendre. Quand tu casses, barre, ça se passe ce que tu veux. Mais à faire des friperies là, ça fait du courage. Quand tu casses, peut-être si c'est pas bon, faut prendre encore pour casser.
Derrière cette activité se cache une histoire, mais aussi une économie diversifiée. En témoigne ce vendeur, non loin de là, Dion Marc Alfred.
Ça fait 5 ans que je suis dans le métier, donc déjà, c'est ce qui peut plaire aux gens, c'est qu'à la mode, c'est selon ça en marche. Tu peux venir prendre une marchandise, par exemple, aujourd'hui, je suis samedi, tu as fini. Lui, il arrive à vivre à ce qu'il gagne dans le commerce de friperies.
Les friperies à Mans ont été longtemps perçues comme une alternative économique pour les personnes aux revenus modestes. Ici, sur place, cette cliente, Kei Bernard, dette en plein achat, nous en parle.
Personnellement, moi, je préfère la friperie parce que ce sont des habits de qualité. Ce sont des habits qui durent plus. Avec la friperie, tu peux bien t'habiller par rapport aux nouveaux habits. Avec les friperies, en tout cas, c'est moins cher.
La vente des friperies devient de plus en plus structurée avec des boutiques à travers la ville de Mans qui se démarquent avec des vêtements de seconde main en bon état. Oulaï Chancel, la trentaine révolue, s'inscrit dans ce domaine. Dans sa boutique située en plein cœur du grand marché de Mans redonne vie aux vêtements de friperie avant de les mettre à la disposition de ses clients.
J'ai commencé la vente de friperie depuis 2016. Et lorsque je récupère au marché, les vêtements sont froissés, sont pas en bon état. Quand je dis bon état, je ne parle pas de la qualité. De visuel, ça ne c'est pas attrayant. Donc moi, je récupère le vêtement, je lave, je repasse et je viens déposer à la boutique. Et lorsque je te donne le prix, tu ne discutes pas.
Dame Mondéran Laure, trouvée sur les lieux en train de faire ses achats, donne les raisons de sa motivation à faire ses achats ici.
Je préfère acheter les friperies en magasin parce que, un, il y a le traitement au marché. On sait tous que tout le monde a accès à ça. Les gens viennent, ils font la fouille avec les mains et tout ça. Tout le monde passe. T'es pas obligé de prendre, tu fouilles, ça te plaît pas, tu déposes. C'est un peu compliqué au niveau de l'hygiène. En boutique, c'est bien mieux, c'est bien traité, c'est bien disposé. Donc, ça te donne envie d'acheter.
Ce secteur en plein essor est considéré comme une activité rentable. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Radio de la Paix, pour vous et avec vous.
C'était un élément de Stéphane Adams que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.radiodelapaix.ci. Stéphane Adams, bonjour.
Bonjour Mel Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ben, Dieu fait grâce, eh ben, ça va bien.
C'est un plaisir de vous retrouver dans Panorama des Régions aujourd'hui.
Même chose aussi, hein, pareil pour moi.
Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans la région du Tonkwi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et de là, vous nous avez produit un dossier d'actualité intitulé « Dans l'univers de la friperie, chacun y trouve son compte ». Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à nous produire un dossier sur la friperie?
La friperie, au niveau de Mans, c'est une observation personnelle. Durant un bon moment, j'ai constaté que les Mannois se livrent à cette activité, notamment la jeunesse. Tout confondu, hein. Je vais parler un peu au niveau des filles comme des hommes. Je pourrais dire que cette branche-là est beaucoup prisée par la jeunesse ici. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit c'est important de m'intéresser un peu à ce chapitre-là.
Et donc, pour réaliser ce reportage, vous avez été dans le grand marché de Mans et ses alentours. Quelle ambiance prévalait autour des commerçants?
Vous savez, nous sommes presque à la fin de l'année 2024 et ce sont les fêtes qui s'annoncent à grands pas.
Exactement.
Et j'ai constaté que les balles de friperie viennent de partout. On en trouve un peu partout au bord de la route, dans les magasins, au niveau des marchés, tout ça. Je me suis dit, ben attends, c'est un domaine, un secteur qui doit être peut-être rentable. Et avec l'ambiance qui prévalait avec les commerçants, les commerçantes qui se livrent à plusieurs sortes de chansons, yougou, bon, en fait, ça, c'est en langue locale. Donc, je me suis dit, ben c'est intéressant de voir que les gens aiment beaucoup s'habiller au niveau de ces vêtements-là. Il était question pour moi d'aller un peu en profondeur pour voir comment est-ce que ça fonctionnait pour ce secteur.
Stéphane, on va tenter une comparaison. Est-ce que vous avez déjà été au marché d'Adjamé?
Malheureusement, non. Parce qu'à moi, au niveau de moi, je vois que c'est plus développé ici, en tout cas.
Ah d'accord, ça c'est ce que vous pouvez nous dire, en tout cas.
Oui. J'ai l'impression que c'est balle après des observations et aussi l'écoute de ces vendeurs-là, ceux qui sont dans ce domaine. Ils me disent que ces friperies viennent d'Abidjan, ça vient aussi du Ghana, de Noé aussi, comme ils le disent. Bon, je ne sais pas comment ils arrivent à faire pour pouvoir faire venir ça à moi, mais en tout cas, c'est un domaine où les jeunes se retrouvent plus. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, ben, c'est un secteur qu'il faut vraiment promouvoir et donner l'envie aux autres jeunes qui n'ont pas d'activité à faire de s'intéresser un peu à ce secteur qui est pouvoir.
Et dans votre dossier d'actualité, Stéphane, vous avez rencontré des commerçants qui vendent à la volée, il y a d'autres qui sont dans des magasins. Dans ces deux cas, quels sont les prix qui sont pratiqués?
Généralement, les prix qui se trouvent sur le marché, c'est abordable. Et mais j'ai constaté qu'il y a certaines commerçantes et commerçants qui ont ouvert des magasins, qui ont donné une autre façon de voir la friperie. Et ces commerçants viennent récupérer tout ce qui est comme première main. Et ces personnes-là vont travailler sur ces friperies-là. Des repassages, l'entretien, on les met dans le sachet. Ça me semblait vraiment curieux. Je me suis dit, ben attends, il faut que je suive un peu le cheminement de tout ça. Et c'est ce qui m'a poussé même à aller dans un magasin de la place, que je ne citerai pas le nom en tout cas, au niveau du grand marché de Mans. Et j'ai constaté qu'il y a une dame qui est beaucoup plus imprégnée dans le domaine. Elle récupère plutôt ses vêtements, elle les repasse. Elle met des produits, elle valorise en quelque sorte ce produit-là. Et ça va très vite. Mais concernant les prix, bon, tantôt, on se retrouve avec peut-être 1000 francs au niveau du marché local, c'est-à-dire sur parterre. Mais dans ces magasins, on peut se retrouver à 1500, 2000, 2500. Donc ça veut dire que ça se trouve, le prix se trouve abordable à tous les niveaux, quoi.
Ah, ça, c'est une bonne chose pour les personnes férues de friperie dans la zone, hein? Et donc, vous venez de parler de cette dame, elle a décrié des conditions d'hygiène pas très commodes. Dans quelles conditions, justement, travaillent les vendeurs à la volée?
Bon, généralement, quand ils viennent avec ces balles de friperie, tout de suite, on déverse sur des sachets, on n'accroche pas. Automatiquement, la population, je veux dire, les clients qui viennent, chacun touche comme il veut, chacun soulève, ça je veux, je ne veux pas. Bon, après ça, c'est fini, c'est autre chose. Et je me suis dit qu'elle, avec sa vision, ça donne une couleur aussi, une autre couleur à la chose, une autre valeur à ce commerce-là, qui prend de l'ampleur en tout cas. C'est ça qui fait la beauté un peu chez elle. Franchement, quand vous observez un peu toutes ces friperies dans ces magasins-là, vous n'allez pas croire, vous risquez de dire mais que ça sort directement de l'usine. Et ça, je suis étonné, parce qu'elle fait le lavage dans des machines professionnelles. C'est ce qui m'a beaucoup séduit un peu chez elle. Elle a des personnes, elle a même employé 3 jeunes qui s'occupent du repassage, de la maintenance de cette friperie-là dans son magasin.
On parle souvent de jours d'arrivage de vêtements. À Mans, quels sont ces jours-là? Quelle est la fréquence?
Généralement, les lundis, vendredis, ce sont les jours de marché à Mans. Et quand vous arrivez, vraiment, vous trouvez presque tout. Tout ce que vous avez besoin en termes de vêtements d'hommes, comme d'enfants, comme de dames. Et ça, en un point fini, quand vous êtes là, c'est beau à voir. Difficile à décrire, quoi. Il faut vivre la chose sur le terrain. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la mairie est en train de donner une valeur à ça. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Malheureusement, comme c'est un dossier d'actu qui nous prend 2 minutes 30, je ne pouvais pas rentrer dans certains détails. Je me suis dit qu'il fallait seulement rester un peu au niveau de la valorisation de ce produit-là. Sinon, qu'il y a un travail qui est fait au niveau de la mairie pour donner plus d'emplois à la jeunesse dans ce domaine-là.
Puisque vous en parlez, qu'est-ce que la mairie de Mans fait concrètement pour ces jeunes-là?
Au sein de la mairie, il y a une structure qui s'occupe de l'organisation de ces jeunes-là. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Très souvent, on voit qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. On ne s'intéresse pas. On se dit, bon, ils sont à leur propre compte, est-ce que c'est nécessaire de les organiser? Mais à moi, ce n'est pas le cas. La municipalité se donne le moyen de pouvoir mieux les organiser. Et d'ailleurs, la mairie est en train de mettre en place, en train de trouver un site spécial pour ces jeunes gens. Vous voyez que ça a de l'ampleur quand même dans la zone.
Stéphane, qu'est-ce qui peut pousser les gens, selon vous, à être friands de vêtements de seconde main?
D'abord, c'est la beauté. Hein. Il y a aussi la qualité. Je peux même dire que la qualité s'y trouve à tous les niveaux. Et le prix. Les prix sont vraiment abordables. Tout le monde peut se procurer des vêtements. Et des meilleurs vêtements, surtout pour les fins d'année qui approchent. Voilà ce qui pousse beaucoup plus la clientèle vers ces vêtements-là.
Et pour ce qui est des commerçants, qu'est-ce qui les amène à cette activité?
Selon ce qu'ils ont eu à sortir, d'abord, un, difficile de se faire de l'emploi, puisqu'il n'existe pas d'usine actuellement. Pour ne pas rester oisif, ils ont préféré vraiment se donner à cette activité-là pour sortir leur tête de l'eau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que parmi eux, il y a d'autres qui ont pu construire leur propre cours.
Ah bon?
Bien sûr.
Grâce à cette activité?
Oui, bien sûr, des jeunes gens que je connais bien, parce qu'ils me l'ont dit, et je suis allé voir des maisons, des chambres-salons avec toutes les commodités. Ça veut dire que quelque part, c'est un produit à prendre à bras le corps et encourager la jeunesse à s'intéresser à la vente et à s'organiser dedans surtout.
Ah, donc on comprend là que ces personnes-là, ça fait des années qu'elles exercent cette activité.
Tout à fait. Parce qu'avec ce jeune homme que j'ai eu le temps de énumérer un peu dans mon élément, il était sur sa deuxième maison d'ailleurs. Wow. Sa première maison est totalement terminée et il est sur sa deuxième construction actuellement. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais tiens, c'est que il y a de l'argent dedans. Mais ce qu'il a eu à me dire, il faut de la patience. Il faut se priver de beaucoup de choses pour en arriver là. Voilà. Ne pas faire des dépenses au-dessus de ses moyens. Parce que arrivant à un moment, la supérie, ça sort, et puis à un moment, ça ralentit ou ça est là en statico. Donc, mais eux-mêmes se donnent le moyen de pouvoir aller tout doucement et puis bon, s'organiser avec le peu qu'ils gagnent.
Et généralement, ce sont des vêtements de seconde main qui sont vendus, mais pas que. Oui. Il y a parfois des chaussures ou autres accessoires de seconde main. Est-ce qu'on en trouve des articles qu'on a l'habitude d'appeler des articles France au revoir?
Les chaussures France au revoir, il y en a assez. Mmh. Et surtout que, à main, les Ghanéens ont beaucoup développé ça. Mmh. Voilà. À main, on trouve beaucoup de Ghanéens dans ce domaine-là. Ils viennent avec des chaussures qui sont de valeur et qui sont beaucoup prisées même par la population. Et ça, j'encourage vraiment la jeunesse à s'intéresser à cette activité.
Et enfin, Stéphane, nous arrivons au terme de notre entretien. J'ai deux questions supplémentaires. Première question, après tout ce que vous avez découvert dans l'univers de la friperie, est-ce que vous envisagez vous lancer dans cette activité?
À dire vrai, oui. Ça m'intéresse beaucoup.
Et deuxième question, est-ce que vous-même, vous êtes friand de friperie?
Oui, c'est clair.
Oui, c'est clair.
Généralement, peut-être que je vous ai rendu la dernière visite à Avignon.
Tout à fait.
Ah, certainement, vous avez vu comment j'étais vraiment habillé.
Oui.
On ne peut pas imaginer que ça vient de la friperie.
Oui, vous étiez élégamment habillé.
Merci.
D'accord, Stéphane.
Ça m'a droit au cœur.
Je vous en prie, Stéphane. En tout cas, merci pour votre contribution à ce numéro de Panorama des Régions.
Merci beaucoup, Mel Emmanuel. Bonne émission. Et en tout cas, toutes mes félicitations à toute l'équipe de la Radio de la Paix.
Merci, merci beaucoup. Je passerai le mot aux autres.
Ok, merci, bonne journée à vous.
Merci, à vous également.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Intermède musical au rythme du terroir Inzima. La chanson que nous écoutons en ce moment est de Listron Kwame et s'intitule Abissa. La transition est toute trouvée, nous allons justement parler de l'édition 2024 de cette fête et c'est maintenant avec Didier Blé. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Alors c'est un plaisir de vous retrouver dans Panorama des Régions. Ça fait la deuxième fois en l'espace d'un mois. La première fois je crois que c'était le 18 octobre dernier à l'occasion du colloque sur Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro.
Ça a été un excellent moment pour nous. On a eu le temps justement d'en savoir un peu plus sur Houphouët-Boigny et puis de parler avec des jeunes apprenants naturellement qui voulaient savoir qui est Houphouët-Boigny, mais avoir une idée de l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est en se référant à son histoire qu'on paraît plus équilibré.
Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour le festival Abissa édition 2024. Alors, pouvez-vous nous décrire l'esprit et l'objectif de ce festival?
L'idée festival s'est récupérée donc par la touche de modernisation. Sinon, à l'origine, la Bissa n'est pas un festival.
D'accord.
On essaie de faire la différence. C'est une danse annuelle, une danse sacrée qui se tient chaque année. Donc, à la fin du mois d'octobre, on démarre et puis la Bissa s'achève le premier week-end de novembre. Donc, ça a été toujours comme ça depuis des centenaires, voire des millénaires.
Donc, quel est l'objectif que poursuit la Bissa, cette danse traditionnelle?
Le premier élément important, c'est de célébrer sa culture d'abord. On a tous des cultures, chaque peuple a sa culture. Maintenant, après, il faut se donner les moyens de rendre cette culture-là plus attractive. C'est ce qu'a fait le comité Abissa, présidé par Jean-Baptiste Amichia. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait une stature plus traditionnelle, avec des chefs qu'on invitait un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. C'était un comité dynamique, mais c'était pas avec les mêmes moyens, avec les mêmes sponsors. Aujourd'hui, c'est une équipe de personnes aguerries dans l'univers économique, dans l'univers de la banque, dans l'univers donc du marketing, du sponsoring. Et donc la Bissa a pris nos tournures. On a eu en temps l'arrivée du roi Nana Amontanoé, donc déjà vers 2003-2004. Et puis en venant, il y a la coloration, je dis, de royauté, la coloration de solennité. Donc tout cela associé, on décide maintenant d'offrir à chaque journée des journées dédiées à des corps de métier, à des familles. Les 7 grandes familles de la population Nzima viennent défiler. Tous les Nzima, où qu'ils vivent, de France, de Grand Laou, des États-Unis, battent le rappel sur Grand Bassam. Et après l'étape de Tiapoum, on a l'étape de Grand Bassam. Voilà comment ça fonctionne.
Mais d'où nous vient cette danse? Quelle est son origine?
À l'origine, c'est une danse sacré. Vous savez, dans la grande famille des Nzima, on a dit il y a 7 grandes familles et toutes les entités se retrouvent au moins dans une des grandes familles. On va les citer tout à l'heure. On peut être de père Njoafo, de mère Nvavile, de père Nvavile, de mère Ezoile, Njoafo. Et donc, c'est une femme de la grande famille Nvavile qui s'est retrouvée dans la forêt. C'était en fin d'année, lors de la tombée des graines de palme et tout. Et un génie lui a expliqué, pour conjurer le sort, je vous demande de pratiquer cette danse, d'invoquer la manne, de tenir un tambour sacré, d'aller dans la forêt et de transmettre après cette danse-là aux populations. Et donc ce que cette femme a exécuté, trait pour trait, ça donnait donc chaque fois que en fin d'année on a les graines de palme qui tombent, ça veut dire naturellement que c'est la nouvelle année. Le calendrier à l'époque n'était pas le même pour nous comme chez les Occidentaux. Et cette femme est venue, elle a tout expliqué aux populations. Donc depuis lors, les différentes royautés, les différentes familles, les différentes populations les ont récupérées. On a une grande première étape qui est le Siedou, donc la retraite du tambour sacré qui va naturellement dans son antre sacré. Puis dans la deuxième grande semaine, on a le tambour qui est livré aux populations sur la place publique. Ça dépend. La place Abissa à Grand Bassam reste là une des places les plus mythiques du quartier France. Mais avant que la fête n'arrive à Grand Bassam, on a une autre étape qui est la ville de Tiapoum. Donc on a la Bissa également à Tiapoum, et avant Tiapoum naturellement, on a la Bissa qu'on retrouve à Boadé, c'est une ville du Ghana. C'est vrai qu'à l'époque, territoire ghanéen, c'était pas encore le Ghana, hein, c'était des territoires, donc on sentait pas le changement. Mais aujourd'hui, on sent le changement. Donc de ce territoire-là, la Bissa arrive en Côte d'Ivoire, et lorsque c'est livré, le roi fait sa sortie le mardi, donc il y a deux grandes sorties. Et à côté donc des deux grandes sorties, il y a tout un rituel qui est fait. Il y a la danse, il y a les costumes. On invoque les manes, on fait des libations, on a l'aspersion à l'eau sacrée, donc qui concerne le houdolé. On a la première étape, donc le siedou, retrait du tambour. Ensuite, la deuxième étape où on danse avec tous les tambours qui accompagnent les dombolés, le tam-tam sacré. On bat les tambours, on danse, on chante. Vous connaissez bien le rythme d'ailleurs. On a des chansons de Mewé, on a des chansons de l'histoire de Kwame qui utilisent parfaitement cette rythmique-là. Mmh. Puis, lorsque le roi est installé, on a des chansonniers, hein, des différents villages, des différentes tribus. Et ça, c'est une touche de démocratie qui est quasiment unique en Côte d'Ivoire. Les chansonniers disent au roi ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Lorsque ça n'a pas été bien, on prend note. Et lorsque ça a été bien, ben, on ovationne publiquement les personnes concernées par des actes louables, à l'opposé des actes blâmables. Et puis, on a après ce qu'on appelle la mise en lumière d'une autorité Nzima célébrée, à qui on donne un bâton de pèlerin parce qu'il devient ambassadeur de la culture Nzima. Donc parmi ces personnes-là, on pourrait citer Mewé, hein, Francis Audier, Georges Zalé, Nyuambala, et les familles viennent pour qu'on célèbre cette personne. J'avoue que ce sont des grands moments d'honneur pour la population Nzima.
Et vous avez parlé tantôt de territoire et de peuple ghanéen, mais on a l'impression que c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'est célébré l'Abissa.
Oui, c'est un parcours, c'est chaque année, on l'a dit depuis des centenaires. L'Abissa est célébré à Boadé d'abord, ensuite la fête vient se poursuivre et c'est Bassam qui s'offre le bouquet final. Donc c'est un parcours, on ne dira pas initiatique, mais c'est un parcours général. Maintenant, on traverse certaines villes pour informer des populations que l'Abissa se tient. Donc on a Benini, on a Mwame, et tout ça c'est sur la côte à Mafia. C'est vrai que ceux qui vous parlent ne font pas du tout la différence entre le fait que certaines célébrations se font au Ghana et en Côte d'Ivoire, et vous parlent comme si c'était dans le même pays. C'est un, oui, ça fait sourire parce qu'ils sont encore dans leur tête, dans la célébration d'un même peuple finalement.
Dans la région du Sud Comoé, il y a d'autres événements culturels comme le Popo Carnaval par exemple, mais qu'est-ce qui différencie justement l'Abissa de ces autres événements culturels?
Bon, ce sont des... Le Popo Carnaval est une fête initiée par nos aînés, nos papas de l'époque, hein, je parle de Mathieu Kra, Jean-Baptiste Amétier, qui ont monté la Rebo, hein, c'est une organisation pour le développement, le Beaunois, donc ça part de là. Le Popo est un des plus anciens formels, modernes réellement, il a plus de 52 ans je crois. La Bissa reste encore une fête traditionnelle annuelle. Donc ça n'a pas la même coloration. Tous ses sponsors aujourd'hui ont apporté une stature plus moderne. C'était une exigence, mais sinon le Popo reste un festival moderne, d'un coup on n'a pas de célébration traditionnelle en tant que telle. Ça a été initié en ville par des sommités d'une certaine région. Alors qu'en réalité, la Bissa, c'est un peu comme la fête de génération qu'on a à Mossou, ça veut dire même à Bassam, à Beaunois, où des populations concernées par une certaine génération sortent pour exprimer leur maturité. On dit qu'à ce niveau-là, nous prenons part maintenant aux choses importantes du village, donc c'est l'instauration d'une certaine maturité. Ce qui est différent de l'Abissa, c'est vrai que des générations sont là, mais ça n'a pas la même texture. C'est une danse bilan. Bilan parce qu'à partir de la critique sociale, on fait le bilan annuel de la communauté. Donc on dit réellement ce qu'on souhaite à l'avenir, on dit ce qui n'a pas marché, et on explique au roi éventuellement ce qu'il faut faire naturellement pour que les choses changent. Et c'est ça l'instinct des démocraties, il comprend bien, et le jour de la fin, le dernier jour, le dimanche, il adresse son message de nouvel an aux populations. Et puis, il fait une parade dans tout le quartier France avec la fanfare. C'est un des moments les plus exaltants de l'Abissa. Donc, autant l'Abissa peut ressembler à la fête de génération ou la fête des ignames, avec une forte présence donc du rituel traditionnel, parce que ceux qui sont plus modernes voient la danse, le tam-tam, les maquis, les bars. Mais ceux qui ont un œil plus puriste en termes de tradition, qui sont allés voir la sortie du tam-tam, on a encore l'aspect sacré qui est présent. Et quand on n'est pas habitué, je pense qu'on a quelques craintes quand même. Donc l'Abissa s'apparente un peu plus au niveau de la fête de génération ou la fête des ignames. Et le Popo Carnaval, il s'apparente au FICAD, c'est un festival en termes de promotion commerciale, mais où on présente quand même la culture de la région.
Dédé, à vous entendre parler, j'ai envie de vous demander, êtes-vous un initié ?
Non, pas du tout. J'y vais depuis 30 ans au moins.
Ah oui.
Donc chaque fois, chaque interview, on a le temps de se renseigner pour savoir telle ou telle action pratiquée comme ci, comme ça. C'est ce qui fait qu'on fait la somme de toutes ces connaissances finalement.
Vous avez été au cœur de l'édition 2024. Quelles sont les innovations ou qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes?
C'est vrai que en termes d'innovation, comme on dit, c'est pas des innovations en tant que telles qui viennent changer le déroulement, mais ce sont des ajouts, des thèmes différents ou des présences de personnes. Donc, on a eu la journée des femmes. En quoi qu'on dise, c'est une journée qui met en lumière les femmes actives, pas seulement le Bassam, qui présente la reine-mère de Grand Bassam. La reine-mère, c'est pas la femme, c'est la tante, la cousine ou la sœur du roi. Et la reine-mère, à l'époque, était installée dans son siège et qui, à la limite, marchait avec noblesse et tout. Aujourd'hui, ça change parce que les reines-mères, naturellement, sont les personnes lettrées qui ont travaillé et tout. Donc, elles font venir des collègues, des amis ou des femmes d'une certaine classe sociale. Et cette année, la marraine de la journée des femmes était la présidente du Sénat, Candia Camara. Donc, c'était l'occasion, justement, de mettre en lumière une femme qui, dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, a su se distinguer. Et puis d'autre part, il y a eu des années où c'était des femmes de ministres, c'était des femmes ambassadeurs. Et après, les femmes sont vraiment célébrées comme il se doit sur la grande place publique. Ça, c'est la journée des femmes. Quand le lundi, c'est la journée des jeunes, le mardi, c'est la première sortie du roi. Et là, il vient, il se présente à la communauté, c'est l'occasion pour les plus jeunes de voir le roi. Le roi, on le voit pas comme ça, naturellement. Donc, il parle pas ce jour-là, mais les chansonniers font la critique sociale. Le mercredi, donc, on a la journée des femmes. Et le jeudi, on a la journée des cadres, donc des forces vives. Les associations, les mutuelles, hein, tout ce qui est organisation de Nzima, on vient se présenter. Et puis des personnes d'élite également viennent. Il y a des panels où on échange autour de la pérennisation de la tradition. Et le vendredi, on a la journée des chefs traditionnels, parce que vous savez que c'est plusieurs villages à Grand Bassam. Tous les chefs viennent. Et puis on invite naturellement des chefs qui viennent d'ailleurs. Le chef de Tiapoum, le roi était là avec les différents chefs. Et puis on a eu l'attraction, ce sont les chefs qui sont venus du Ghana pour marquer cet échange entre les peuples. Ça se fait très souvent au niveau de Bondoukou avec des chefs ghanéens qui viennent chaque fois qu'il y a une manifestation. Et ceux-là, ils sont venus du Ghana pour voir comment ça se fait ici. Naturellement, ceux de Côte d'Ivoire vont y aller pour voir aussi comment ça se fait au niveau du Ghana. Et puis on a eu la journée du samedi, c'est la journée la plus festive, où il y a énormément de monde, et si vous n'aimez pas le monde, n'y allez pas, ça devient trop compliqué. Mais à côté de l'aspect traditionnel, on a une ambiance qui tient jusqu'à 21h, et dès que le tambour s'arrête, les maquis prennent le relais, et puis bon, c'est l'ambiance dans le quartier France jusqu'au petit matin. Et dimanche, comme j'ai dit, à 5h du matin, il y a l'aspersion à l'eau sacrée, hein, on adresse des messages de purification à toutes ces personnes-là. Et puis évidemment, Mel, vous savez que certains qui sont devenus chrétiens et très chrétiens n'y vont plus parce qu'ils estiment que l'aspersion à l'eau sacrée ne rentre pas dans leurs critères de perception religieuse. Donc ceux-là restent encore à la maison le lendemain et à la fanfare vers 6h. Et puis on continue le petit show, les échanges jusqu'à ce qu'à 16h, le roi fasse sa parade et son message de nouvel an.
Et quelles retombées économiques pour la Côte d'Ivoire généralement et pour la région en particulier ?
Retombées économiques, on a d'abord le fait que la Bissa se passe à la ville historique, hein, qui est patrimoine de l'UNESCO depuis le 29 juin 2012. Donc déjà, dans le booking international, on a eu pas mal d'expatriés qui venaient de partout dans le monde pour venir voir c'est quoi la Bissa. On est venu découvrir aussi la ville historique qui, à travers la modernité, a su garder ses bâtiments encore traditionnels. Je pense que c'est là qu'il y a eu toute l'attraction de l'érection au patrimoine de l'UNESCO. Il fallait pas casser pour reconstruire, mais il fallait adapter avec le même matériel, mais dans une stature plus moderne. Ils sont venus, ils étaient là, et pas mal de photos, vidéos, des télévisions étrangères qui sont venues. Donc ça, c'est d'abord l'attraction. Et ensuite, puisqu'on a des millions de personnes qui vont à Grand Bassam sur une semaine, et donc on ne peut pas citer de nom de partenaires, mais en termes de boissons en Côte d'Ivoire, tout le monde se déporte, téléphonie mobile, des gens même font des ouvertures de comptes sur place à la Bissa, banque, assurance, on a même l'électricité qui est présente, et tout cela paye quelque chose. Donc ça, c'est les grandes entreprises, et puis d'autre part, on a des maquis ouverts, et ceux-là également payent quelque chose au comité Abissa. On a ceux qui ont des stands hein, pour juste vendre leurs bijoux, leurs différents produits, même pour proposer des biens et services. Les hôtels sont archi-combles. Hein, la centaine d'hôtels ou la deux centaines d'hôtels à Grand Bassam, il n'y a plus de place. Ça a une répercussion sur Moussou, sur Abouasso et même sur Beaunois, parce qu'on ne veut pas aller loin, sur Adiaké également. Et puis, je veux dire, on mange, on boit, on échange tous les jours. Donc le tourisme est catapulté, le tourisme évolue, ça bouge. Après ça, ben, c'est, je pense que c'est tous les opérateurs économiques qui se frottent les mains, surtout ceux des hôteliers, de la restauration, même le musée, qui à la limite peut tenir sur une centaine de personnes par semaine. À la Bissa, ça devient une centaine de personnes par jour, parce qu'au-delà du fait qu'on a le quartier France qui bouge, en même temps ceux qui sont touristes ont besoin de voir par exemple le palais du gouverneur Benger devenu musée du costume. Et ça fait changer beaucoup de choses.
Didier, enfin, dans l'œil du participant chevronné, comment voyez-vous l'évolution de la Bissa dans les années à venir?
Dans les années à venir, je pense que nous autres, nés en ville et je dis engloutis dans le modernisme, on y va chaque année, même si c'est difficile de parler sa langue, c'est vrai. Mais on essaie d'apprendre pour pouvoir tenir dans les panels dans les années à venir. J'ai apprécié le fait qu'il y ait un centre de formation. Donc tous les jeunes, adolescents et tout petits viennent pour célébrer, danser, regarder comment ça se passe. Et pour taper les tambours, on les oriente vers un espace où on leur apprend à taper. Pour le défilé des familles, on leur explique ce qu'il faut dire, comment il faut faire. Au niveau des chansonniers, on inclut des plus jeunes pour pérenniser cela, parce que les aînés partent de 80 à 70 ans, c'est plus très évident. Donc il y a une transition palpable qu'on essaie de voir. Moi, j'y suis allé avec mes enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne doivent pas être étrangères à leur culture, mais puis même pas forcément à la Bissa. Pour tous les autres festivals, il faut qu'au-delà du fait qu'on soit des citoyens de la ville, et qu'on soit bien imprégné de notre culture, pour ne pas être des êtres dépersonnalisés, c'est très important.
Merci Didier pour votre participation à Panorama des Régions.
Merci beaucoup Mel Emmanuel.
Radio de la Paix.
Nous caracolons allègrement vers la fin de cette émission et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci auditeurs et auditrices d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Panorama des Régions revient la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Panorama des Régions. Panorama des Régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.